Ceci est une interview donc pour le site ActuSF pour ton livre La merveilleuse histoire des éditions Roy qui vient de paraître aux éditions Mosquito. Alors avant toute chose, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter à ceux qui nous écoutent et nous parler un peu de ton parcours professionnel et des œuvres que tu as faites?
J'ai 35 ans, je suis breton, je suis né et je vis toujours à Rennes, marié, deux enfants. J'ai sorti mon premier livre à 18 ans, ça s'appelait Carnet de route d'un chasseur de lutins, parce qu'on est dans une région assez marquée par les féeries, le folklore, l'imaginaire un peu celtique, on va dire. Et j'ai fait 4 livres sur le sujet, sur les lutins, les fées. C'est un peu des mélanges entre Groland et le monde des lutins, on va dire, parce que c'est un genre qui a un peu besoin d'être bousculé. Et puis, une première cassure en 2010 avec la parution au Lombard de mon premier album de bande dessinée, Tom et William, un one-shot un petit peu à la croisée de l'Uchronie et des mondes genre Strange, Marvel, parce que je suis un grand lecteur de comics. Le Frank Miller qui faisait Daredevil ou les Spider-Man, les X-Men de John Byrne et Chris Claremont, c'est un peu ça ma culture. Et avec cette première bande dessinée parue donc il y a 2 ans, c'était le moyen d'ouvrir ma musette et de redéballer un petit peu toutes les influences qui m'avaient marqué en tant que lecteur.
Alors justement, vu que tu parles de Tom et William, par rapport à ce livre finalement qui vient de sortir sur les éditions Roa, tu as créé justement, enfin tu as développé toute une espèce d'univers, j'allais dire qu'on retrouve à la fois dans la BD, qu'on retrouve sur le net et qu'on retrouve justement à travers ce livre. Vu que dans la BD intervient, on va dire que l'un des héros est un grand lecteur assidu de petits fascicules d'une maison d'édition, donc Roa, dont le logo fait énormément penser aux éditions Lug, et qu'auparavant, pour préparer, pour ainsi dire, l'arrivée de la BD, tu t'étais amusé à créer un blog où un collectionneur passionné justement parlait de ses comment dirais-je, de ses multiples recueils, de sa collectionnite aiguë et du plaisir qu'il avait à lire encore à ce moment-là ce type de fascicule.
Oui, c'est ça, parce que bon, pour reprendre chronologiquement, quand j'ai fait Tom et William, l'idée c'était qu'un petit garçon pouvait appeler à la rescousse, un peu comme Aladdin appelle ses génies, il pouvait appeler Batman, Flash Gordon, Hakim, Black le Rock, Zambla, Spider-Man à l'aide s'il avait un souci. Or, je n'avais pas le droit d'utiliser ces personnages-là sous licence. Donc je me suis dit, tiens, créons nos propres ersatz, puisque Zambla, Hakim ne sont jamais que des sous-Tarzan. Rien de plus facile que créer d'autres ersatz, d'autres sous-Rahan, sous-Tarzan, sous 1000 autres hommes en slip léopard dans la jungle. Et pareil pour le médiéval, pareil pour le pirate, pour le western, pour le karaté. Et j'ai créé comme ça 10 personnages qui sont sur la liste de ce petit garçon dans la bande dessinée Tom et William. Et pour donner du crédit à ces personnages-là, pour qu'on ressente un peu la jubilation qu'aurait un gamin à appeler Spider-Man, mais sans citer Spider-Man, j'ai voulu les faire exister de manière la plus réaliste possible. Et c'est là, en 2009, un an avant l'apparition de l'album, que j'ai commencé à travailler sur un blog dont j'ai vraiment tout fait pour donner l'apparence de la réalité et qui faisait l'éloge de ces prétendues éditions, éditions Roi, aujourd'hui disparues, mais qui en réalité sont totalement le fruit de mon imagination.
Alors, pour donner encore un peu plus corps à cet univers, tu as aussi développé un personnage, pour ainsi dire, clé qu'on retrouve dans ton livre, qui est John King, une espèce de Stanley du pauvre. Alors attention, ça n'a rien de péjoratif, mais comme tu dis, un type qui fait flèche de tout bois, qui produit des centaines et des centaines de scénarii pour ce type de comment dirais-je ce type de littérature qui est un peu l'héritière des dime novels qu'on pouvait trouver aussi bien en Angleterre, des petits fascicules qui donneront les comics en Amérique et de cette littérature qu'on retrouve aussi en France, que ça soit au tout début du XXe siècle ou dans l'après-guerre où on bascule cette fois-ci dans le monde de la BD où effectivement on tombe sur des héros qui sont des copies un peu imparfaites de super-héros existants. Et bien souvent
Exactement.
faits par
D'ailleurs,
des...
les illustrés auxquels je fais allusion, qu'on appelle généralement sous le nom les BD Hakim, Zambla, BD Edgar, Illustré, Pocket, ils ont pas mal de noms, certains continuent de les appeler des pulps. Donc vraiment, on est dans cette idée de BD populaire, de dès que quelque chose fonctionne un petit peu, généralement au cinéma, l'idée c'est de rebondir très vite sur l'intérêt des lecteurs, souvent jeunes, des jeunes garçons, pour la plupart, entre 6 et 12 ans maximum. Et suivant les modes au cinéma du péplum, du film de préhistoire aussi, avec bien avant la guerre du feu, il y avait 1 million d'années avant Jésus-Christ, avec Raquel Welch. Et dès qu'un univers attirait un peu l'attention, y compris le western spaghetti, les phénomènes du film d'espionnage, de kung-fu, de karaté, eh ben la BD petit format très vite sautait dessus et s'en emparait. Donc effectivement, c'était moi mon idée, c'était de créer une fausse maison d'édition rennaise, d'où son nom, roi étant les trois premières lettres de Rennes en breton, roi comme roisonne, sur le modèle de Lugues qui avait pris les trois premières noms du nom latin de Lyon, Lugdunum. Et voilà, j'ai créé cette espèce de maison fictive bretonne, là où toutes les vraies maisons d'édition d'illustrés étaient, elles, souvent à Lyon ou à Paris ou à Lille.
D'accord. Et comment tu t'y es pris justement pour développer, j'allais dire, d'un point de vue artistique, tout cet univers? Parce que quand on lit ton livre, tu pousses le vice jusqu'à fabriquer de fausses pages de BD. Alors par moments en plus, j'allais dire, t'introduis même une private joke vu qu'en montrant à travers différentes séries, c'est un peu, c'est les mêmes dialogues qui reviennent. J'ai eu le souvenir à un moment sur la découverte d'un personnage qu'on amène à un autre, le diamant de l'œil pur, et en fait on retrouve cette séquence dans au minimum 3 ou 4 séries qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. À un autre moment.
Je me suis amusé à penser que je voulais créer un sentiment d'étrangeté. Je voulais qu'en lisant ça, on puisse tour à tour se rappeler au canular, le but étant pas coûte que coûte de créditer comment dire, de la véracité de ces fausses éditions, mais continuer à créer le doute, c'est-à-dire mélanger la réelle histoire de la bande dessinée populaire, c'est-à-dire parler de Doc Justice, Raan, Pif, Iron Fist, Captain Marvel, Ivanhoé, Lancelot, Prince Valiant, et les mélanger avec mes créations en moi sans aucune forme de transition de la réalité au total mensonge, à la affabulation. Et sur ce même principe, je me disais, prolongeons ça à la fois dans le texte, mais aussi dans le dessin, dans les planches, dans les couvertures de ces petits fascicules où j'ai vraiment veillé à ce que, par exemple, si le numéro 1 d'une série se situe en juin 53, le numéro 13, qui est mensuel, se situera exactement un an après, juin 54, que la grille tarifaire des prix est elle-même indexée, notamment sur les anciens et nouveaux francs, et que si c'est un numéro double, ça coûte plus cher. J'ai vraiment essayé de pousser la cohérence pour que, même en sachant que c'est faux, on s'amuse à se laisser prendre. Parce qu'un bon conteur est un bon menteur. On sait quand quelqu'un nous raconte une histoire avec un petit chaperon rouge, un loup, on sait que c'est faux. Mais si c'est bien fait, on est content de rentrer le temps de l'histoire dedans et d'oublier tout le reste. Et c'est pour ça, je pense qu'on est toujours fâché quand on regarde un film et qu'on se dit, mais c'est mal fichu, ça tient pas la route, cet élément-là fiche tout le reste par terre. On en veut au scénariste d'avoir brisé une espèce d'harmonie qui nous maintenait dans une cohérence d'histoire où tout se tient, même si c'est invraisemblable, même si c'est idiot de voir des types qui volent ou qui jettent des rayons laser avec les yeux. Du moment que l'histoire elle-même tienne debout, et ben le reste, on arrive à rentrer dedans. Et j'en reviens donc à ces planches de BD où il y a plusieurs fois les mêmes dialogues. Et ben, je me suis vraiment mis dans la peau d'un type qui devait pondre chaque mois 10, 20, voire 30 scénarios de 40 pages chacun. C'est-à-dire écrire à peu près 40 pages de dialogue avec les idées chaque jour, et ça pendant plusieurs décennies. Et je me suis dit qu'il y a bien des moments où il devait repiocher exactement les pages de dialogue qu'il avait fait peut-être 5 ans ou 10 ans avant pour une toute autre série. Et c'est pour ça que des pages de dialogue qui viendraient d'une histoire de viking peuvent se retrouver avec celle du Baron Brume, par exemple, qui va se situer dans le Paris de post-communal de 1870, et qui est une histoire d'aventure nappée de mystère. Donc voilà, donc c'est rigolo, si certains le voient, j'en suis plutôt content, et ça fait partie des petites choses qui se sont développées un peu à l'insu de mon plein gré, comme dit Virenque, et qui me semblait la manière la plus logique qu'un type comme John King aurait pu produire autant de dizaines de milliers de planches dans sa carrière. Il y a bien un moment il a triché, ou il a été à des solutions de facilité, et ça c'est le jeu des lecteurs de le retrouver.
Alors, autre détail, amusant, mais surtout sublime, à un autre moment, tu montres justement comment fabriquer les couvertures de ces illustrés, l'une, ou en montrant tout le processus justement graphique, où on se rend compte que mine de rien, c'était quand même un boulot assez conséquent pour des petites revues effectivement vendues, mettons que 4,50 pour des garçons qui allaient la lire pendant la cour de récré ou le soir en cachette tranquillement.
Ça permettait plus facilement de les lire discrètement.
Et le truc justement qui est aussi très très amusant, c'est comme tu dis, montrer toute l'évolution de ce genre, que ça soit en passant en revue les revues de guerre, les revues de science-fiction, les revues de vikings, de pirates, les aventures mystérieuses en Afrique ou ailleurs, et montrer justement l'évolution de ce genre-là, où ça débute effectivement dans l'immédiat d'après-guerre, donc automatiquement il y aura le personnage du soldat essentiellement américain comme sauveur, pour terminer, dans le cas de John King, dans les années 70, avec une série qui s'arrêtera très vite, vu qu'il mourra, pour ainsi dire, sur sa machine à écrire, Le Survivant, qui est plutôt dans une veine très science-fiction, propre aux années 70.
Oui, je cite plusieurs fois l'Éternaute, que j'ai d'ailleurs moi-même découvert dans des petits formats, le titre Antares, qui publiait beaucoup d'histoires de SF, et qui a été republié récemment. C'est une série qui a été écrite par Eric Westerheld et Solanio Lopez au dessin, et reprise après par Breccia, le grand dessinateur argentin Breccia, et qui était vraiment une histoire d'anticipation. Parce que souvent, quand on parle aux gens de Hakim, Zambla, Blek Le Roc, c'est souvent la nostalgie qui ressort. C'est « Ah, je le lisais gamin », ma mère a brûlé tout ça quand je suis parti au service militaire, ou je les ai perdus dans des déménagements, ou je les ai filés, ou je les ai moi-même balancés. C'est quand même globalement un petit peu, la plupart du temps, les histoires qui reviennent. Or, j'aime bien rappeler qu'au milieu d'un paquet d'histoires qui sont quand même pas toutes fondamentales à garder, il y avait quand même beaucoup de choses très très dispensables, il y avait quand même certaines histoires de très très grande valeur qui venaient notamment de pays où on n'avait pas la liberté, les auteurs n'avaient pas la liberté qu'il y avait déjà ici en France, pas seulement en tant qu'auteur de BD, mais en tant que citoyen. Je pense à l'Argentine, des BD chiliennes, des BD d'Espagne sous dictature aussi, et tous ces pays-là, c'est vraiment pas comme en France où à la même époque on avait des Mandrika, Gottlieb, Bretéché, toute une vague de dessinateurs à la fois issus de Pilote, mais aussi de mai 68. C'est les grands bouleversements de Metal Hurlant et sa vague qui va aller jusqu'aux États-Unis avec Heavy Metal. Mais dans beaucoup de pays où on produit ces petites histoires tout à fait inodores, innocentes, de cow-boys et de justiciers de l'espace, il y avait une censure et on faisait très attention à ce que les dessinateurs et les scénaristes n'évoque pas la sexualité, n'évoque pas la politique, ni les dictatures. Donc, à travers certaines histoires, et pour moi l'Éternaute c'est la plus emblématique de toutes, on arrivait à traiter de l'isolement de gens qui étaient finalement comme nous, qui vivaient à peu près un mode de vie occidental et qui d'un seul coup ont vu des juntes militaires, des chars et d'affreuses personnes à la tête de leur pays. Et c'est de ça que parle l'Éternaute. Et John King, mon espèce de mélange de Stephen King pour le côté prolifique et Stanley aussi pour le côté homme d'affaires, n'est pas passé à côté de ça. Et à la fin de sa vie, en 73, il avait envie de laisser une œuvre, quelque chose d'un peu moins désuet que toutes ces petites BD pour gosses. Et c'est pour ça qu'il a écrit Le Survivant, qui est sans doute, qui est le héros des éditions Roy, la série qui va servir à planter le décor pour la BD que j'ai sortie dans Tom et William. Tout l'univers de Tom et William est directement extrait de la situation dans laquelle est le monde dans un futur très proche, en 2010, mais dans une série écrite en 1973 par un John King au soir de sa vie. Et ce qui était amusant, c'était de faire sortir précisément à la date indiquée dans l'histoire des éditions Roy, c'est-à-dire en 2010, une bande dessinée effectivement sortait au Lombard en 2010 et racontait cette histoire-là dans Tom et William. Donc pour moi, la boucle était bouclée. Et en ça, la merveilleuse histoire des éditions Roy qui vient de paraître est une sorte de préquelle de Tom et William. Tout ce que j'ai mis avant, tout ce qui est sur le blog, toute la présentation de l'univers, des personnages, mais aussi des éléments qui permettent de mieux comprendre le one-shot Tom et William, sont disséminés dans ce livre-là. Et à la fois, j'avais envie que ceux qui n'ont pas lu Tom et William et qui ne le liront jamais n'aient pas l'impression que ce soit un espèce de, comment dire, de gimmick, de supplément obligatoire et qui n'a de sens que si on a lu Tom et William. Donc vous pouvez très bien lire l'un ou l'autre sans avoir un manque ou ressentir que c'est incomplet. Si vous lisez les deux, ben là je pense que vous avez pas mal d'éléments pour enrichir la compréhension de l'un et de l'autre.
D'accord, donc en fait, tu t'es vraiment amusé à développer un univers par pan où chacun débouche en fait un peu sur l'autre.
Ah, complètement, et à vrai dire, ça continue aussi, puisque je cite dans le chapitre Ultra-Héros, il y avait les sup-héros aux éditions Luc, c'est-à-dire Photonique de Tota, Micros de Jean-Yves Miton. Pour ne pas empiéter sur le terme super-héros qui était réservé aux héros Marvel dans la galaxie, chez les éditions Lug. Donc il y avait les super-héros Marvel, les sup-héros qui étaient les héros français, et chez les éditions Roy, ce sont les ultra-héros. Et dans ce chapitre des ultra-héros, je cite un personnage qui s'appelle le garçon renard, en breton Potre Louarne, littéralement. Qui est une espèce d'adolescent, une espèce de renard-garou qui est inspiré de L'Homme Léopard, qui était une série qui paraissait dans Janus Star dans des petits formats, et elle-même était un plagiat british de Spider-Man, c'est-à-dire un jeune garçon qui était mordu par un léopard radioactif dans le zoo local de chez lui, et qui prenait des photos de L'Homme Léopard, c'est-à-dire le super-héros qu'il était devenu, pour les vendre au journal local à un patron aussi radin qu'irascible. Donc autant dire que c'était vraiment un plagiat de Spider-Man, mais c'était très bien fichu. Il se baladait dans des rues totalement anglaises, il y avait des bobbies, ces fameux policiers anglais, il y avait toutes des thématiques, il y avait beaucoup moins de super méchants que dans l'univers Marvel, pas de gratte-ciel, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant, gamin. Et donc mon garçon renard, le garçon renard que je cite dans le livre des éditions Roy, existe pour de vrai depuis un an dans une revue en breton et aussi maintenant depuis quelques mois dans une revue en occitan, et un premier comic book a été édité par le Festival de Strasbourg au mois de juin, reprend les 35 premières pages de ses aventures, et je crédite le scénario de Alain Chevrel et les dessins de Laurent Lefebvre. Et dans le livre des éditions Roy, je dis que les droits du personnage ont récemment été rachetés et qu'à nouveau, les héros rois se remettent à exister. Donc je continue à étendre tout doucement, après Tom et William, le livre des éditions Roy. Il y a aussi le premier qui existe vraiment, puisque chaque mois, depuis un an, je produis trois planches de bande dessinée couleur, j'en suis à 45. Donc vraiment, oui, je continue d'étendre, développer, de maison d'édition en maison d'édition. J'emmène avec moi mon petit univers que j'étends gentiment de projet en projet, quoi.
Alors, justement, vu que tu nous parlais de Piotr Louarn, désolé pour l'accent breton absolument ignoble.
Ah, ça se prononce pote, comme touche pas à mon pote, pote
D'accord.
Warn.
Alors, là, j'en profite en même temps pour refeuilleter justement ton livre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est deux, trois références. Là, j'en ai une sous les yeux. Le garde républicain, qui est une espèce de Captain America, qui va, pareil, finalement, abandonner sa charge de super-héros, mais cette fois-ci en déclarant carrément au général de Gaulle qu'il ne croit plus en ce qu'il fait, et où ça joue finalement énormément, comme tu dis, par rapport à tout ce qui est mai 68 ou autre. Un autre, parce que la couverture était vraiment sublime, c'était Zajcik, où c'était en fait la couverture du dernier numéro des éditions Roa, qui s'arrêtait en 1984, parce que bah, finalement, ils n'y arrivaient plus. Le contexte économique n'était plus le même, et les séries peut-être commençaient à s'essouffler. Et dans mes souvenirs, il y avait eu aussi une ou deux tentatives de passer à autre chose qui avaient complètement échoué.
Oui, je me rappelle, en fait, beaucoup de titres se sont arrêtés dans les années 80 en bande dessinée. C'est globalement, et quelques-uns ont vraiment vivoté de quelques nostalgiques encore quelques années. Mais globalement, c'est vraiment dans les années 80 que ça s'est. Il y a vraiment eu un coup d'arrêt, quoi. Et souvent, je voyais à la fin des petits formats, justement, moi je lisais beaucoup Mon Journal, c'est-à-dire Captain Swing, Janus Stark, Antares, Apache. La route de l'Ouest, c'est le genre de petits formats de titres que j'aimais bien. Et puis moi-même, je les achetais d'occasion d'ailleurs, je les achetais jamais neufs. Moi, je suis né en 77, donc autant dire que quand j'avais 7-8 ans et que j'étais en âge de commencer à les lire, c'est à peu près l'époque où tout s'arrêtait. Donc c'est pas vraiment. C'est pas censé être des lectures de ma génération. Je suis censé plus avoir lu Akira ou même Dragon Ball ou Strange. Que j'ai d'ailleurs par ailleurs beaucoup lu aussi, mais pas les petits formats. Et je les trouvais d'occasion. Mais ce que je sais, c'est que les derniers figuraient d'étranges publicités à la fin des pubs pour des magazines de tennis. Où on sent vraiment que les rédacteurs-chefs cherchaient coûte que coûte à se diversifier, à trouver d'autres moyens d'attirer les jeunes, mais qui n'y comprenaient rien. Il y avait des magazines comme Génération 4, avec l'arrivée des jeux vidéo, tout cet univers-là qui arrivait. Et puis voilà, le terrain était prêt pour que les mangas, quelques années après, prennent le relais en termes de lecture populaire à pas très cher, et avec des héros récurrents et apparitions très très régulières, beaucoup plus en tout cas que les albums cartonnés. Et du coup, effectivement, les éditions Roi, à la fin, ont fait des tentatives un peu bizarres de suivre le goût de l'air du temps sans bien comprendre. John King, qui était plutôt un type conservateur, s'est essayé à une revue d'humour qui s'appelle Zizi, le petit journal qui deviendra grand, en essayant de faire de l'humour un petit peu à la Flic Glacial, mais il y a aussi eu Yeti, le journal de Margerin, il y a eu plein de tentatives, Psychopathe qui existe toujours aussi. Et toutes ces tentatives-là étaient à la fois des dépenses d'énergie, mais des dépenses de sous, et qui ont au final achevé de couler la boîte, quoi.
Alors, peux-tu nous expliquer justement comment le passage s'est fait du blog vers le livre?
Eh bien, le passage du blog vers le livre. Disons que moi, dès que j'ai commencé cette aventure-là, c'était en avril 2009, c'est-à-dire à peu près, oui, un an avant l'apparition de Tom et William, que j'ai eu cette idée-là. Je crois que c'est venu de Twin Peaks. Je suis bon, voilà, assez fan de la série de David Lynch, comme beaucoup de gens. Et j'avais trouvé un truc génial, c'est qu'à un épisode de la série, le lieutenant, l'agent Dale Cooper du FBI, qui était chargé de résoudre le mystère de qui avait assassiné Laura Palmer, à un moment, les personnages de la série retrouvaient le journal intime de Laura Palmer, où beaucoup de clés et d'éléments étaient cachés. Or, pour que les lecteurs sachent exactement tout ce qui est aussi dans le journal, et comme chaque épisode figurait une journée dans cette ville de Twin Peaks, et bien David Lynch a anticipé le truc et a eu une idée géniale. Il a écrit, soi-disant, soi-disant sous la plume de sa propre fille de 16 ans, il a écrit le journal de Laura Palmer et l'a fait paraître dans toutes les librairies des États-Unis entre deux épisodes, c'est-à-dire entre l'épisode où les personnages trouvaient le journal intime de Laura Palmer et l'épisode suivant diffusé la semaine qui suivait. Entre-temps, tous les fans de Twin Peaks avaient pu aller dans leur librairie, trouver le livre qui venait de paraître absolument partout aux États-Unis, l'acheter, le lire et être absolument raccord avec ce que les personnages savaient pour l'épisode diffusé la semaine suivante. L'idée était géniale, c'était de passer d'un support, la télévision, un feuilleton, à un autre, et les deux se répondaient de manière parfaitement coordonnée. Et comme moi je parlais d'histoire d'un personnage, le petit Tom dans Tom et William, qui est enfermé dans une autre dimension que la sienne, comme un lecteur de Spider-Man sera enfermé dans la dimension Marvel et en allant à New York pourrait croiser Daredevil à Hell's Kitchen, ou l'école de professeur Xavier des X-Men en allant à Massachusetts, et bien là l'idée c'était ça. Puisqu'un de mes personnages est coincé avec Tom et William dans ce monde post-apocalyptique, il fallait qu'il y ait un spécialiste des éditions Roy. Et c'était Alain Chevrel, ce type qui a une soixantaine d'années, qui est originaire des Côtes d'Armor, et qui est vraiment de cette génération des 30 Glorieuses qui a grandi avec John Wayne, Gina Lollobrigida, Kirk Douglas, les péplums au cinéma et les petits formats des éditions Roy. Et comme lui, c'était un passionné de ça, il a créé un blog, parce qu'en regardant sur Internet, en tapant Édition Roy, tout ce qu'on trouve, c'est son blog à lui et quelques fiches Wikipédia qui ont été supprimées d'ailleurs entre-temps.
Ouais, la fourberie de Wikipédia n'a pas de limite.
Une injustice, c'est-à-dire que beaucoup de sites parlaient de Zambla, de Hakim, personne parlait du sergent Gachette, du chevalier Panache, de Ching Chong dans la revue Criquitu, de SOS 117, parodie d'un autre célèbre agent espion français. Et voilà, il a créé son site. Et moi, ça me semblait une bonne idée, à la fois de faire quelque chose en parfaite cohérence avec l'univers multidimensionnel que j'essayais de mettre en place, et en même temps, si je faisais bien mon truc, si je me ratais pas et si ça avait l'air suffisamment vrai, je pouvais créer aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz, c'est-à-dire faire un peu parler de mon album à une époque où il y a quand même des milliers d'albums de BD qui paraissent chaque année. Moi, c'était mon premier. Et j'avais envie de mettre vraiment toutes mes forces dans la bataille pour me faire remarquer. Après, le reste, j'avais publié une bonne cinquantaine de couvertures quand j'ai été au Lombard, leur dire d'allumer Internet et de leur expliquer en direct ce que j'étais en train de mettre en place et sur ce sur quoi je comptais buzzer dans les semaines ou les mois qui viendraient, laisser un peu filtrer pour que... la petite communauté qui s'intéresse à la BD populaire, au petit format, aux comics, tout ça, voit mon travail, le découvre. Mais tout ça derrière l'identité d'un personnage de ma BD, Alain Chevrel. Laurent Lefebvre, lui, devait pas apparaître. Donc voilà comment ça s'est fait. Au Lombard, ils étaient au courant de rien. C'était vraiment une initiative volontaire et totalement bénévole de ma part. Et au moment de sortir l'album, c'est Eric Laurin, graphiste au Lombard, qui a convaincu l'éditeur de la collection signée Paul Scortesia de rajouter un supplément de 10 pages à l'album pour mettre une partie de ce travail-là et essayer de drainer du monde vers le blog et vers cet hommage au petit format qui a toujours été dans mon intention. Alors ça, c'est pour la première étape. Ça a servi aux journalistes beaucoup à remarquer l'album Tom et William. Il y a pas mal de gens que ça a amusé. Il y en a qui sont amusés à essayer d'acheter des objets ou des titres que j'avais placés moi en vente sur eBay, des éditions Roy. Et après ça, il y a eu une rencontre avec Michel Jans des éditions Mosquito, avec qui par ailleurs je travaille sur un autre projet. Et en parlant de cet autre projet, il me demandait si je comptais faire un livre avec tout ce travail qui était dans le blog sur les petits formats, sur les éditions Roy. Et j'ai un petit peu prospecté chez quelques éditeurs sans réponse. Et lui comprenait pas parce que c'est quelque chose qui vraiment l'amusait beaucoup. Et comme il avait déjà publié un livre avec Mezzo qui s'appelait Drugstore, qui était un recueil de fausses couvertures de pulp parues dans Picsou pendant quelques années, faite à la façon de Chaland quand il peignait les couves de Rigolo, la version humour de Métal Hurlant, Il disait, ça ferait bien un bouquin dans le même style, un beau bouquin toilé, avec un beau papier, collector, et pas trop cher en même temps. Et moi, ça m'intéressait, je trouvais ça super. C'était le but dès le début. Dès que j'ai fait mes fausses couvertures, vraiment, je croisais les doigts pour que ça ne reste pas que sur Internet, sinon j'aurais pas mis autant de temps, d'application, de travail, autant de nuits, parce que c'était en plus de mes autres boulots que je faisais ça. Ces couvertures, là, ces 100 et quelques couvertures faites, et ces planches, et tout ce travail-là, je le faisais la nuit, le week-end, la nuit. Et donc, effectivement, j'ai toujours espéré que ça servirait à quelque chose d'autre que juste faire une image sur Internet, quoi. Et grâce à Mosquito, c'est aujourd'hui chose faite. Et voilà.
D'ailleurs, à ce propos, comme tu le signales, faut vraiment souligner le très bel objet que l'on a, où effectivement, couverture cartonnée, tranche toilée, très très bonne qualité des pages, une qualité d'impression absolument fantastique, et tout ça pour un coût assez modique, 18 euros si je ne m'abuse. Non, on a vraiment effectivement une magnifique encyclopédie sur une médaille d'édition, comme tu dis, dont on ne parle pas suffisamment assez. Donc voilà au moins une injustice corrigée. Par rapport à ça, et vu que tu parlais justement d'autres projets, alors si je ne m'abuse, tu travailles, parce que c'est déjà crédité dans ce livre, sur quelque chose autour des œuvres de Seignolle.
Qui vient d'avoir 95 ans aux fraises, là, il y a un mois ou deux, au mois de juin exactement. Et effectivement, que j'ai lu, moi, que j'ai découvert dans la collection France Loisirs, qui était Contes et légendes de France. Il y avait Contes de Provence, Contes de Bretagne, voilà, il y avait un peu toute la région. Et Claude Seignolle, j'ai redécouvert après dans la collection Marabout, où, aux côtés de Jean Rey, Thomas Owen, parmi d'autres auteurs incroyables ou d'autres classiques comme Le Golem, Dracula ou Frankenstein, paraissaient ces nouvelles que je trouvais vraiment extraordinaires, un style très imagé qui pour moi est parfaitement approprié à la bande dessinée. Et du coup, j'en ai parlé à Michel Jeans des éditions Mosquito. C'est d'ailleurs par ce biais-là que je l'avais contacté la première fois, parce qu'en lisant le travail fait avec Dino Battaglia ou Sergio Toppi, qui adaptait soit les contes d'Hoffmann ou d'Edgar Poe ou de Maupassant pour Battaglia, ou les contes des Mille et Une Nuits avec Charazde de Toppi, qui sont vraiment des dessinateurs. Moi, c'est des idoles pour moi, que je trouve un travail de noir et blanc vraiment magnifique. Et là, je voyais guère d'autres maisons d'édition que Mosquito pour éditer potentiellement des adaptations des contes de Claude Seignolle, des contes noirs à base de sorciers, de meneurs de loups, des légendes du Berry ou de Bretagne ou d'un peu partout. Vraiment une très belle écriture. Et j'ai contacté donc Michel Jean, qui m'a raconté que quand il était jeune et qu'il faisait du stop, les romans de Seignolle étaient souvent au fond de son sac à dos alors qu'il bourlinguait sur les routes de France. Et donc vraiment, il a contacté Claude Seignolle à son tour, après que moi je l'ai contacté, que j'avais eu l'autorisation de l'écrivain, voire plutôt même de vifs encouragements. Et puis tous les trois, on est devenus copains. Voilà, moi qui ai la trentaine, Michel Jean qui a la soixantaine, et Seignolle qui a la nonantaine, comme disent les Belges. Donc c'est une belle histoire qui n'avance pas assez vite à mon goût, bah, pour des raisons de budget tout simplement, puis parce que je suis un peu dispersé sur plusieurs travaux en même temps. Il y a une première histoire de 11 pages qui est terminée. Après, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais m'atteler à nouveau à ce projet-là, qui, une fois de plus, me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais malheureusement, c'est un peu mon calendrier qui fait défaut.
D'accord. Alors justement, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions sur tes futures parutions? Tu vas continuer, j'allais dire, à t'amuser sur le long terme avec les éditions Roi, ou tu commences à bifurquer sur tout à fait autre chose?
Ben, moi, j'aimerais bien continuer. J'aime bien l'idée qu'on suive un auteur et qu'on retrouve un peu de passerelles, des thématiques, des choses un peu récurrentes d'un livre à l'autre. Un peu ce qu'on fait des fois sur certains cinéastes. Je pense à Brian De Palma ou Clint Eastwood, où on peut s'amuser à suivre, quel que soit le genre ou le film, les époques traitées, à trouver des thématiques communes, des choses qui reviennent, des clins d'œil ou des acteurs un peu familiers comme une. Et j'aime bien l'idée que les personnages sont comme un peu des acteurs qui reviennent comme une bande qui vient autour d'un même réalisateur. Donc si je pouvais remettre du William ou le petit homme qui aurait grandi ou d'autres personnages à continuer à intervenir, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me plairait vraiment énormément, plutôt qu'une série de projets qui n'aient aucun lien les uns avec les autres. Par exemple, du futur projet avec Seignolle, il y a déjà une case de présente dans le livre des éditions Roy, tout comme Le Garçon Renard est lié lui aussi aux éditions Roy, et Tom et William évidemment est très lié aux éditions Roy. J'aime bien l'idée, oui, qu'on puisse, à partir d'un point central, créer des branches, des petites lignes en étoiles qui partent, mais que tout peut relier à un moment ou à un autre. Donc voilà, pour le moment, ce qui pose principalement défaut, c'est le marché, qui est quand même pas très simple. C'est pas très facile de signer des projets de bande dessinée en ces années, à la fois de crise de la BD et de crise plus large. Et donc du coup, ça se fait tout doucement. Moi, je travaille dans le dessin animé parallèlement qui pourront me permettre de vivre. Mais effectivement, si j'en ai moyen, si je peux, ce sera avec plaisir que je continuerai d'étendre cet univers-là. En tout cas, c'est ma volonté. Et ce n'est pas les projets qui manquent.
D'accord. Ben en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci surtout pour donc cette très belle BD Tom et William. Ce non moins fantastique essai sur les éditions Roy. Tes petits fascicules par rapport à ton ultra-héros breton. Et je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Et je pense qu'on aura tous énormément de plaisir à retrouver tes personnages sous quelque support que ce soit.